Donc bonsoir à tous, je me faisais la réflexion que l'église où je vais en Angleterre, le dimanche on n'est pas aussi nombreux qu'aujourd'hui, le mardi soir. Donc on est vraiment bénis d'être, même le mardi soir on est quand même un bon petit groupe, ça fait plaisir. Et même le mois d'août. Donc effectivement le cantique qu'on vient de chanter, le psaume en fait est basé sur le psaume 24, et comme je disais, le psaume 24 est très très proche en fait du psaume 15. Et donc c'était une bonne introduction, et peut-être qu'on y reviendra pendant le message. Donc je vais relire le psaume 15. Psaume 15, psaume de David. « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point l'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. » Donc ce petit psaume commence par une question à Dieu lui-même, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Et il ne faut surtout pas ignorer cette question et passer tout de suite à la suite du texte. Parce que la tente, c'est le tabernacle. Et qui pouvait entrer, du temps où ce psaume a été écrit, qui pouvait entrer dans le tabernacle? Personne. Seul le souverain sacrificateur pouvait rentrer une fois par an. Et encore avec tout un rituel, c'était le jour des expiations, Yom Kippour, tout un rituel de sacrifice pour les péchés du peuple, pour ses propres péchés. Et donc effectivement, aucun homme ne peut se tenir en la présence de Dieu et vivre. En fait, personne ne peut rentrer dans le tabernacle. C'est ce que dit Dieu à Moïse en Exode 33:20, lorsqu'il lui dit, l'Éternel lui dit, tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Moïse voulait voir sa face. Et Moïse était un homme humble, il avait donné sa vie à Dieu, mais il ne pouvait pas se tenir en sa présence. En Ésaïe 6, le prophète Ésaïe se trouve tout à coup devant la gloire du Seigneur, dans le temple, et même les anges, qui pourtant sont sans péché, se voilent la face, se couvrent la face devant Dieu, et ils proclament saint, saint, saint est l'Éternel, parce qu'il proclame la sainteté de Dieu que nous n'avons pas. Et c'est cette sainteté qui fait s'exclamer Ésaïe, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et Ésaïe était un homme de Dieu, et je pense que, en tout cas, commencé par moi et beaucoup d'entre nous ici, n'atteignons pas sa cheville, probablement en termes de dévouement au Seigneur. Et pourtant, cet homme exemplaire, il se voyait absolument incapable de se tenir dans la présence de Dieu. Et il était en particulier repris par les péchés qu'il commettait avec sa bouche, probablement les péchés de la parole. Il y a beaucoup d'autres hommes de Dieu comme ça dans la Bible qui ont été pris de panique lorsqu'ils sont trouvés d'une façon ou d'une autre dans la présence de l'Éternel. On a eu Gédéon. Il y a le Manoach, le père de Samson. Job. On a Pierre aussi lors de la première pêche miraculeuse, il réalise que Jésus est Dieu. Jean, lorsqu'il y a dans Apocalypse 1, lorsque Jésus en gloire lui apparaît. Et ce sera aussi le cas de tous les hommes lors du jugement dernier, quand ils tiendront dans la présence de Dieu, ils verront sa pureté et en contraste, ils verront leur péché. Et à cause de leur péché, ils verront la colère de Dieu, la colère de l'agneau qui est décrite dans Apocalypse, où ils crieront aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Ils ne pourront pas subsister devant la colère de l'agneau. Qui peut séjourner dans le tabernacle du Seigneur? Alors il répond à la question, le Seigneur répond à la question dans le psaume, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité dans son cœur. Mais qui franchement peut dire, qui franchement peut par rapport à cette description, lever la main et dire c'est moi. Qui peut dire cela ? Qui peut dire, oui, c'est moi qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit les vérités dans mon cœur. J'ai les titres pour pouvoir me tenir dans le tabernacle. Je pense que personne parmi nous ne peut dire ça. Je dois avouer, moi, que la lecture de ce psaume, vous aussi, probablement, m'a souvent mis mal à l'aise parce que je me demandais ce que je devais en faire, puisque j'ai l'impression de rater très souvent cette cible. Et pourtant, le psaume est très exigeant, il ne dit pas que c'est celui qui s'efforce de faire ces choses ou qui les fait le plus souvent. Non, il résonne, ce psaume résonne comme la loi de Dieu, qui est inflexible, implacable. Et Galates nous rappelle d'ailleurs que maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Si l'on veut séjourner dans le tabernacle de l'Éternel, il faut que nous pratiquions ces choses tout le temps. Et si vous êtes honnête avec vous-même, frères et sœurs, vous savez que ce n'est pas votre cas. Vous savez que vous avez dit du mal des gens. Vous savez que vous n'avez pas toujours dit la vérité. Vous savez que vous n'avez pas toujours tenu vos promesses. Toutes ces choses sont exigées dans ce psaume. Et si on sait ça, on doit être terrifié. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas qualifié pour séjourner dans le tabernacle de l'Éternel. On n'est pas qualifié pour passer l'éternité avec lui. Et c'est la pire des nouvelles qui soit, parce que non seulement on n'a pas pratiqué ces choses, mais en fait, notre attitude a été caractérisée par une transgression permanente de ces choses. Ça devrait nous remplir de terreur. Celui qui réside dans le tabernacle est la source de la vie. Si nous ne pouvons pas entrer dans le tabernacle, nous sommes séparés de la source de la vie pour l'éternité. J'ai parlé des souverains sacrificateurs. Les souverains sacrificateurs, ils entraient dans le tabernacle, c'est vrai, mais ils y entraient une fois par an. Le psaume parle de séjourner. Ils y entraient avec le sang des boucs et des veaux, mais ils n'y séjournaient pas. Mais il y en a un qui est entré dans le tabernacle et qui y séjourne. Et à tel point nous dit la parole qu'il s'y assit. La parole nous dit qu'il s'est assis. Il n'est pas entré avec le sang des boucs et des veaux, comme les souverains sacrificateurs, mais il est entré avec son propre sang. Et la parole nous dit qu'il y est entré avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Hébreux 9, 12. Et cette rédemption éternelle, il est obtenue pour nous, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés. Un seul sacrifice pour toutes les choses qui sont décrites dans ce psaume que nous avons si souvent transgressées. La parole nous dit qu'il s'est assis toujours, pour toujours à la droite de Dieu. Et que par cette seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est-à-dire ceux qui croient en son nom. Et cet homme, évidemment, cet homme, qui est aussi Dieu, mais qui est aussi un homme, c'est Christ. Et nous savons que nous séjournerons avec lui dans le tabernacle éternel, parce qu'il a dit qu'il est allé nous préparer une place et qu'il va venir nous chercher. Et ce qui vient d'être dit, ce qui est décrit dans Hébreux, nous explique comment il a préparé une place, en offrant son propre sang. Mais il n'a pas seulement acquis une rédemption éternelle par son sang mourant à la croix, il a effectivement accompli dans les moindres détails, sans jamais faillir une seule fois, chacune des choses qui sont décrites dans ce psaume. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, il est le seul qui peut vraiment séjourner dans cette tente. Lui, il peut dire « Oui, moi j'ai pratiqué l'intégrité, eu la vérité dans mon cœur, et pratiqué la justice, marché à l'intégrité et eu la vérité dans mon cœur. » Il n'est pas seulement mort d'une mort parfaite, mais il a vécu une vie parfaite. Il n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Il l'a accompli comme notre représentant, à notre place. Il est le seul qui ait jamais pratiqué entièrement tout ce qui est dit dans ce psaume, sans faillir. Et cette justice qu'il a acquise en menant une vie parfaite, elle nous est imputée par la foi. Et c'est pour ça que on peut rentrer dans le tabernacle. Alors, est-ce que ça veut dire que on peut fermer les Bibles et s'en aller, qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire, et pas lire la suite du psaume? comme si ça ne nous concernait pas, puisque de toute façon Jésus l'a fait pour nous. Non, parce que Dieu a un projet pour nous. Son projet, c'est que nous soyons rendus conformes à l'image de son Fils. Et en effet, la parole nous dit que ceux qui aiment Dieu sont prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et donc toutes les choses qu'il a accomplies parfaitement à notre place, maintenant c'est à nous, je dirais par imitation, aussi de les accomplir. Et ce psaume, en fait, c'est le portrait robot d'un chrétien. Alors, est-ce qu'il est attendu, est-ce qu'on s'attend à ce que nous respections toutes ces choses parfaitement? Non, parce que déjà nous avons failli, combien de fois, jusqu'à aujourd'hui, nous allons encore faillir. Mais si ces choses ne caractérisent pas notre vie nouvelle de chrétien, au moins dans une certaine mesure, et si ces choses ne sont pas la direction vers laquelle nous tendons, de plus en plus, alors nous ne pourrons séjourner dans les tabernacles éternels. Parce qu'en fait, nous ne porterons pas les fruits de celui qui a été racheté par Christ, de celui qui est en Christ, et qui étant en Christ est vivant et transformé par lui de gloire en gloire. Et si on ne porte pas ses fruits, ça veut dire qu'on ne lui appartient pas, ça veut dire qu'on n'a pas notre place dans le tabernacle. Mais nous ne recherchons pas les fruits pour nous prouver quelque chose par rapport à nous-mêmes, mais nous produisons naturellement les fruits, parce que nous sommes des sarments rattachés au cep. Et qu'un sarment qui est rattaché à un cep, dans la nature, il produit des grappes. C'est inévitable. Et s'il ne produit pas de grappes, alors ce n'est pas un vrai sarment, et dans ce cas-là, il est coupé, on le laisse sécher, on le brûle. C'est important, ça, de bien se dire que le fait de porter des fruits, c'est la preuve qu'on est un sarment, une branche de vigne, qui est bien branchée au cep, qui reçoit la sève du cep, c'est-à-dire Christ, et qui porte des fruits. Et sachant tout ça, on lui demande, Seigneur, quelle est ta volonté? Et lui nous dit, ma volonté, c'est que tu pratiques ce qui est dit dans ce psaume. Alors, Seigneur, puisses-tu nous enseigner? Puisses-tu nous enseigner à comment pratiquer ce qui est dit dans ce psaume et nous donner surtout par ton esprit le désir et la capacité de faire ta volonté? Et donc on va maintenant passer un peu de temps à regarder le portrait robot du chrétien, qui est tel qu'il est écrit dans ce psaume. Ce psaume ne contient pas toute la loi, mais se concentre sur la deuxième table de la loi. Donc on sait qu'il y a deux tables. La première table, c'est les quatre premiers commandements qui concernent notre relation avec Dieu. Puis la deuxième table, c'est notre relation avec les uns et les autres. Et Jésus d'ailleurs a résumé les dix commandements par cette phrase où il a dit que le premier commandement, c'est « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier. Et le plus grand commandement, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc ici, on voit bien, d'ailleurs, dans un des premiers versets où il est dit, tu ne feras pas de mal à ton semblable, qu'on est dans le contexte d'aimer son prochain comme soi-même. Et le verset 3, donc, résume, en fait, le verset 3, il résume la réponse à la question qui est développée dans la suite du psaume, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité dans son cœur. Alors, marcher dans l'intégrité, marcher, c'est un mot qui revient souvent sous la plume de Paul. Plutôt qu'une action particulière, qu'une bonne action, par-ci, par-là, marcher, c'est notre comportement général dans la vie. Par exemple, en Colossiens 1:10, Paul parle de marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits, en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant par la connaissance de Dieu. Donc ici, il nous est dit que nous devons marcher dans l'intégrité. C'est quoi l'intégrité ? En fait, elle doit être donc la caractéristique de toute notre conduite. Et le mot traduit intégrité, c'est intéressant parce que bon, ça pourrait être traduit par droiture, mais aussi par sans défaut et sans tâche. C'est le mot. Ce mot est aussi traduit sans défaut et sans tâche. Et encore une fois, c'est une caractéristique de Christ. Mais notre marche, elle doit, en tant que chrétien, elle doit tendre vers l'irréprochabilité, et c'est notre cible. Philippiens 2:15, faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables. Et pur, donc irréprochable, c'est le même sens que intègre, et pur, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Alors celui qui pratique la justice, donc ici il ne s'agit pas de rendre la justice comme le ferait un roi sous son chêne, en jugeant les affaires des hommes. Il ne s'agit pas non plus d'être un justicier qui vient redresser les torts de ceux qui sont lésés injustement. Nous laissons ces choses-là à Dieu, le fait de juger et le fait de redresser les torts, c'est lui qui fera ça. Mais nous, notre mission, nous chrétiens, c'est de pratiquer la justice, c'est-à-dire de faire des œuvres justes. Et en fait, il s'agit de faire la volonté du Seigneur, telle qu'elle est exprimée à de nombreux endroits dans sa parole, aussi bien dans la loi de l'Ancien Testament que à de très nombreux endroits dans le Nouveau Testament, où la loi est répétée et puis elle est développée. Dans Matthieu 7, 21, nous lisons ceci: « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Et c'est très intéressant de voir le parallèle qui est entre ce verset que je viens de lire et le psaume 15. Ce verset parle d'entrer dans le royaume et le psaume parle de séjourner dans le tabernacle. Et Matthieu 7 parle de faire la volonté du Père et le psaume parle de pratiquer la justice. Donc on a effectivement ce parallèle. Celui qui dit la vérité dans son cœur. C'est important de dire la vérité avec la bouche, mais c'est encore plus important ce qui vient du cœur. On sait que le Seigneur a dit que c'est du cœur que venaient les mauvaises choses, ou les bonnes choses aussi. Et donc le cœur, c'est la source de la vie chrétienne, et le cœur, il doit être rempli de vérité. Sinon, on est un sépulcre blanchi. Spurgeon dit que notre cœur doit être le sanctuaire et le refuge de la vérité, en commentant ce passage. Et combien de fois nous mentons à nous-mêmes dans notre cœur? Parce que nous ne voulons pas regarder la vérité en face. Parce que nous n'aimons pas ce que la vérité a à nous dire, quant à notre attitude, nos choix, notre manque de courage. Je dirais même, comme le disait le frère tout à l'heure, que parfois on se ment à soi-même sans s'en rendre compte. Parce qu'on n'a pas, en ce moment-là, on manque d'avoir la vérité dans notre cœur. Donc après avoir donné une description générale dans le verset 2 de l'homme qui peut entrer dans le tabernacle de Dieu et qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, qui a la vérité dans son cœur, ensuite le psalmiste va illustrer son comportement dans les versets suivants et il va illustrer 4 thèmes: la calomnie, le regard sur les autres, le respect de la parole donnée et la cupidité. Donc d'abord la calomnie: il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain. La calomnie, à mon avis, c'est un des péchés les plus répandus parmi les hommes et même parmi les chrétiens. Et c'est un péché qui est meurtrier. Combien de réputations sont détruites par la calomnie? Combien de mal est fait aux autres? Le psalmiste remarque que c'est un péché qui vise à faire du mal à son semblable, la calomnie. Et nous en sommes tous coupables. Il est le résultat d'un cœur qui juge, un cœur haineux ou un cœur blessé qui refuse de pardonner. C'est un péché lâche, parce qu'on le fait dans le dos de l'autre personne. On le fait dans le dos des gens, mais en face, on est tout sourire. Le psaume 12 dit que on se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. La chose est vraiment vilaine et nous devons vraiment explorer nos cœurs et nos attitudes pour tuer ce mal à la racine quand nous le trouvons. Si nous avons été blessés par quelqu'un, parce que souvent il y a la calomnie qui vient de là, on a été blessé par quelqu'un, on a besoin d'épancher notre frustration auprès d'une autre personne, mais ne vaut-il pas mieux dans ce cas-là soit peut-être aller voir la personne et trancher le problème avec lui, sans nuire à sa réputation, ou mieux encore, et beaucoup mieux je dirais, comme le dit Paul en 1 Corinthiens 6, 7, c'est déjà certes un défaut chez vous d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Si on a le sentiment d'un juste ou valable ou pas valable d'avoir été blessé par quelqu'un, pourquoi plutôt ne pas se laisser dépouiller, comme dit Paul et comme dit Pierre, avant tout ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Si notre cœur est animé d'une véritable charité chrétienne, nous ne prendrons pas la mouche pour un rien. Et notre charité couvrira les péchés et nous n'irons pas nuire à la réputation des autres avec notre langue. Mais non seulement nous ne voulons pas calomnier les autres, mais nous ne voulons pas non plus prêter une oreille complaisante à ceux qui calomnient. En fait, la fin du verset 3 dit « Il ne jette point l'opprobre sur son prochain ». Mais j'ai lu qu'en fait, on pourrait le traduire un peu différemment, on pourrait dire qu'il n'accepte pas ou il ne reçoit pas de reproches contre son prochain. Donc c'est une attitude qui consiste à, quand quelqu'un calomnie, à ne pas prêter une oreille. C'est difficile ça, parce qu'on est souvent exposé au travail ou quelqu'un qui va se mettre à dire du mal d'un autre. Et en fait, la bonne attitude, c'est de pas réagir avec joie, ça, parce qu'en fait, Proverbe 18 nous dit que, verset 8, les paroles du rapporteur sont comme des friandises. C'est tellement agréable d'entendre dire du mal de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Elle descend jusqu'au fond des entrailles. La loi des hommes condamne aussi sévèrement le vol que le recel. Si vous volez quelque chose, c'est un crime, mais si vous gardez, la chose volée, en sachant qu'elle est volée, c'est du recel, c'est condamné par la loi. Ben c'est pareil, on est aussi coupable de recevoir une chose volée que d'accepter, de recevoir volontiers la calomnie sur quelqu'un d'autre. Il y a une culpabilité aussi d'accepter, je dirais, de bonne grâce la calomnie des autres, sur les autres. Colossiens 3:8, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc là, nous avons, dans ce verset, on voit que la calomnie, en fait, elle est intégrée dans tout cet ensemble de péchés qui sont les comportements de méchanceté, animosité, méchanceté, colère, paroles déshonnêtes. Et la calomnie, elle caractérise notre vie passée, avant de connaître Christ. En fait, il parle ici du vieil homme, c'est quelque chose qui caractérise le vieil homme. Et parfois, les habitudes du vieil homme, même si le vieil homme est mort lorsque nous avons été sauvés, les habitudes sont tenaces. Paul nous parle de se dépouiller du vieil homme. Alors écoutons l'apôtre Paul et dépouillons-nous du vieil homme et de ses œuvres. Ensuite, il y a un deuxième thème, le regard sur les autres, verset 4. Il regarde avec dédain ce qui est méprisable, mais il honore. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. On a ici une forme de style qu'on retrouve souvent dans l'Ancien Testament, c'est la forme du parallélisme. On a deux morceaux d'un verset qui, je dirais, qui se répondent l'un à l'autre. Ici, vous voyez que la deuxième section de la phrase renforce l'idée de la première section, là en donnant son opposé. Vous avez il regarde avec dédain celui qui est méprisable, et parallèlement, vous avez qu'il honore ceux qui craignent l'Éternel. Donc là, c'est l'opposé, mais il renforce l'idée. Et donc, l'opposé de regarder avec dédain, c'est d'honorer celui qui craint l'Éternel. Alors maintenant, on est peut-être surpris de cette injonction de regarder avec dédain celui qui est méprisable. Dieu nous demande-t-il pas d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, et aussi nous demande-t-il pas de ne pas juger? Effectivement, absolument. Mais ces choses ne sont pas incompatibles avec ce que dit ce verset, je pense. Réfléchissez à ceci. Aimer, ce n'est pas tolérer tout et n'importe quoi, et n'importe quelle attitude pécheresse. Mais au contraire, l'amour pousse à reprendre celui qui agit mal. Dans son intérêt, comme un père reprend un enfant. On ne doit pas juger au sens dont on ne doit pas prononcer une condamnation. On ne doit pas se mettre, nous, à la place du juge. Celui qui est à la place du juge, c'est le Seigneur. Ou éventuellement, sur terre, le juge, dans le cadre d'un tribunal, dans un mode de fonctionnement qui est décrit en Romains chapitre 13. Le Seigneur bénit ça, il a même prévu que ça se passe comme ça. Mais nous, on n'est pas là pour juger et porter des condamnations sur les autres. Mais en revanche, on peut discerner. On n'est évidemment pas appelé à fermer les yeux sur les mauvais comportements comme si ce n'était pas produit. Regardez ce que dit 2 Thessaloniciens 3:14. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le. Et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Là, il parle d'une personne qui, en fait, refuse de travailler. Ou encore en 1 Corinthiens 5:11, « Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. » Donc il y a vraiment une attitude de vérité par rapport à cette personne. Et Jésus a regardé avec dédain les pharisiens. Et ça ne veut pas dire qu'il les aimait pas. La preuve, peut-être son plus grand apôtre, était un pharisien. C'est Jésus qui l'a choisi sur le chemin de Damas. Donc son dédain pour les pharisiens, il n'était pas sans amour. Mais il était vraiment en dédain pour leur attitude. Et Jésus, il a aussi honoré, on parle d'honorer ceux qui craignent l'Éternel, Jésus, il a honoré la foi de ceux qui craignent l'Éternel, notamment le centurion romain, en Matthieu chapitre 8, puis aussi la femme syrophénicienne, il a dit « que ta foi est grande ». Ensuite, troisième thème, le respect de la parole donnée. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Donc ce verset nous parle du respect de la parole donnée. Nous ne devons pas nous engager avec précipitation dans des promesses que nous ne serons pas capables de tenir. Mais une fois que nous sommes engagés à quelque chose, nous devons aller jusqu'au bout. Et en fait, c'est un trait de caractère de Dieu lui-même. En lui, il n'y a pas de changement ou d'ombre de variation. Ça ne veut pas dire que Dieu est une statue figée qui ne bouge pas. Mais ça veut dire que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas ? C'est ça que ça veut dire quand on dit que Dieu est immuable. C'est qu'il est inflexible par rapport à ses promesses. Ses promesses sont irrévocables. Et pour nous, je trouve que ce respect de la parole donnée, moi je trouve qu'il atteint son paroxysme. C'est en tout cas même ce qui m'est venu à l'esprit dans le mariage. Et également dans le rôle de parent. Dans un mariage, vous engagez solennellement par contrat. Et la parole nous dit ici qu'il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Et c'est vrai que parfois dans le mariage, il y a des périodes difficiles où peut-être que l'un des deux dans le couple aura envie de se rétracter, parce que la période est difficile. Ou quand on a des enfants. Si on a des enfants, on doit reconnaître à partir du moment où même on a l'idée de vouloir avoir des enfants, que on s'engage, on ne signe pas un contrat, mais on s'engage irrévocablement à le soutenir jusqu'à ce qu'il soit un adulte autonome. Et il y a des moments où c'est difficile, les enfants, il y a des passages difficiles. Mais ce n'est pas les moments dans lesquels on va se rétracter, parce qu'on a un engagement, il est vers le Seigneur qu'on va le guider jusqu'au bout. Et je trouve la plus belle image de quelqu'un qui ne s'est pas retracté, qui pourtant aurait pu le faire parce que c'était à son préjudice, c'est Jésus. Quand Jésus est allé à la croix, il ne s'est pas rétracté. Certes, il a demandé au Père si c'était possible, dans sa volonté, que la coupe lui sortirait. Mais il a dit que ta volonté soit faite. Et il a bu la coupe de la colère jusqu'à la dernière goutte. Et puisse-t-il être notre modèle ? Il a respecté son engagement jusqu'à la fin. La cupidité, c'est le quatrième et dernier thème. Il n'exige point l'intérêt de son argent. Je ne pense pas que ce verset interdise les prêts d'argent, qui sont effectivement très répandus dans notre société. On est ici dans le contexte manifestement d'une personne qui est démunie et qui a besoin d'argent. Et la parole nous engage à soutenir financièrement une telle personne. Et si c'est par un prêt d'argent, si la personne a besoin d'un prêt d'argent momentané, et s'il y a quelque espoir qu'elle puisse rembourser ce prêt, eh ben on ne va pas aggraver la situation en rajoutant un intérêt. En s'enrichissant sur son dos, en lui demandant un intérêt. On voit souvent des entreprises, il y en a pas mal, notamment en Angleterre, ça se pratique peut-être plus qu'ici, qui font des prêts à des conditions complètement honteuses, à des gens qui sont dans la misère. C'est vraiment un business malhonnête. Mais nous-mêmes, évidemment, on n'est pas appelé à faire ça. Mais ce qui est encore mieux, nous, c'est de donner. Donne à celui qui te demande, dit Jésus. Et ne te tourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Mais évidemment, dans un esprit de don. Alors, il y a une autre phrase où il dit « Il n'accepte point de don contre l'innocent ». Donc, cette phrase, elle appelle manifestement les juges à l'honnêteté. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup de cas dans notre pays où les juges acceptent des dons pour condamner des innocents. Mais je pense que de façon plus générale, le verset il parle de notre proportion à nous laisser influencer, à perdre notre impartialité, parce que nous sommes laissés acheter, en fait. Et ça se voit beaucoup dans le monde des affaires, c'est la base de la corruption. Ça se pratique de façon plus ou moins subtile, ça commence par des paroles aimables, des flatteries, des invitations à déjeuner, des cadeaux, des promesses de toutes sortes, et puis parfois plus encore. Donc là, le Seigneur nous appelle à être parfaitement droit dans ce genre de relation. Lui, il ne fait pas de favoritisme, il ne juge pas sur les apparences. Il ne se laisse pas séduire, en fait. Il ne se laisse pas flatter. Il juge selon la vérité. Et enfin, le dernier verset. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Donc cette phrase qui conclut le psaume, elle trouve beaucoup d'écho dans d'autres passages de la Bible. Dans le psaume 112, qui est également très proche du psaume 24, et du psaume 24. Le verset 7 dit ceci, « Car il ne chancelle jamais, la mémoire du juste dure toujours, il ne craint point les mauvaises nouvelles. » Moi, ça m'a toujours beaucoup frappé, cette verset. « Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme et confiant dans l'Éternel. » C'est vraiment un parallèle avec ce qu'on a dans le psaume 15. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Et puis évidemment, vous avez la conclusion du serment sur la montagne, en Matthieu 7, 24. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée car elle était fondée sur le roc. Et on pourrait presque dire que le sermon sur la montagne, c'est un développement de ce psaume en fait. Du moins, en fait, il reprend la même idée. La personne qui a mis sa confiance en Christ, en l'Éternel, comme dit le psaume 112, son cœur est ferme. Son cœur est ferme. Il sait que le Seigneur ne va pas le laisser tomber. Il croit en ses promesses, il a les regards fixés sur lui. Il est comme Moïse, lorsqu'ils étaient au bord de la mer Rouge, qu'ils voyaient les chars de Pharaon arriver. Quelle scène incroyable! Ils voient les chars de Pharaon arriver. Tout le peuple se met à paniquer. Il commence à maudire Moïse, à dire on était bien mieux. Déjà, ils sont en train de regretter leur esclavage. Et Moïse leur dit, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est cette attitude-là, finalement. En fait, cette personne, la personne du psaume 15, la personne du psaume 112, Moïse, la personne évidemment de Matthieu chapitre 7, cette personne, elle a bâti sa maison sur un roc. Et le roc, c'est Christ. Il est appelé le rocher des siècles. Ésaïe 24, 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix. Parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Il est la pierre angulaire, dit la parole. Une pierre éprouvée. Une pierre angulaire de prix. Solidement posé. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Ésaïe 28, 16. Il reprit par un pierre, où il dit une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Comment prendre appui sur cette pierre angulaire? Et comment construire sa maison sur le roc? Je crois que c'est simple. Le Seigneur a fait ses promesses. Et les promesses, on doit les saisir par la foi. Il faut que nous mettions notre confiance dans ses promesses. Et si nous mettons notre confiance dans ses promesses, il ne nous rejettera pas. Il faut qu'on, comme dit la parole, qu'on jette notre ancre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur dans le tabernacle, justement. C'est toujours encore le même passage dans Hébreux. On est sur une mer agitée, troublée, inquiétante, mais on jette l'ancre au-delà du voile. Et elle, l'ancre, elle est solidement attachée en Jésus. On regarde à Jésus avec confiance, car en Jésus, dit la parole, en Jésus, les promesses de Dieu sont oui et amen. 2 Corinthiens 1, 20. Et alors, on aura à cœur de pratiquer tout ce qu'il dit dans ce psaume. Car on sera comme le sarment qui est solidement attaché au cep, qui est nourri, qui porte des fruits, dit la parole, qui porte des fruits en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et en pratiquant toutes ces choses, la vraie raison pour laquelle on va pratiquer ces choses, ce n'est pas pour obtenir notre salut, parce que notre salut est déjà obtenu en Christ. Ce n'est pas non plus pour nous prouver quelque chose de nous-mêmes, même si effectivement, quand on voit qu'on marche selon le Seigneur, on est probablement rassuré par rapport, on acquiert de l'assurance par rapport à soi-même. Il y a des épîtres comme l'épître 1 Jean, ou notamment dans 1 Pierre aussi, où le fait de porter des fruits est quelque chose qui nous rassure. Mais la vraie raison pour laquelle on doit porter des fruits, nous a dit Jésus dans le passage de la vigne et du serment, c'est quoi? C'est que le Père soit glorifié. La raison pour laquelle on doit porter des fruits, c'est que le Seigneur nous a sauvés pour ça. Gratuitement. On porte des fruits par reconnaissance pour qu'ils soient glorifiés. C'est ça notre objectif. Voilà. Prions. Père Céleste, merci pour ces paroles. Merci pour ta parole. Seigneur, nous voulons effectivement regarder à toi avec confiance. Nous savons que c'est là où nous sommes le plus défaillants. C'est de douter de toi, de douter de ta bienveillance, de douter de tes promesses. Pourtant, tes promesses sont tellement nombreuses. Il nous suffit de regarder à toi et de te faire confiance, parce que tu n'as pas un esprit tordu, un esprit compliqué. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Tu as promis des choses, et si nous saisissons ces promesses, Seigneur, alors tu les tiendras. Nous les saisissons avec foi. Et Seigneur, nous croyons en toi, mais viens au secours de notre incrédulité. Nous voulons marcher, Seigneur, selon ta volonté. Nous voulons marcher dans l'intégrité. Nous voulons pratiquer la justice. Nous voulons avoir la vérité dans notre cœur. Seigneur, nous défaillons souvent dans ces choses, mais nous savons que tu nous as promis que tu le ferais pour nous. Quand tu as dit à l'homme qui avait la main sèche de tendre sa main, il a tendu sa main, Seigneur. Et Seigneur, tu nous as dit de faire ces choses, de faire ta volonté. Alors Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous cette force comme tu l'as donnée à l'homme qui avait la main sèche. Seigneur, ne regarde pas notre iniquité, ne regarde pas à la faiblesse de notre foi, ne regarde pas au doute qu'il y a dans notre cœur, à tous ces manquements, mais nous voulons regarder à toi, Seigneur. Regarde à ta propre justice et à tes promesses. Et Seigneur, nous savons qu'en tes promesses, nous avons le... Qu'en toi, Seigneur, nous avons le oui et l'amen. Je te prie, Seigneur, au sein de ton Fils. Amen.